VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 13 juin 2016. Au sommaire ce soir.
Fusillade dans un club gay d'Orlando, la police américaine a dénombré 49 victimes, plus l'assaillant.
Accrochage dans la région de Beni en RDC, l'armée congolaise parle de 7 rebelles ADF tués et un militaire.
La mission d'experts des Nations Unies en matière de droits de l'homme est de retour au Burundi.
Affaire Hissène Habré, les avocats de l'ancien président tchadien condamné à la prison à vie exigent sa libération.
Aujourd'hui, la détention du président Habré repose sur une décision nulle et non avenue.
Dans moins de 10 minutes, le journal de l'Euro 2016, mais d'abord les nouvelles. Le président américain Barack Obama a affirmé aujourd'hui qu'il n'existait à ce stade pas de preuves claires que l'attaque meurtrière dans un club gay d'Orlando en Floride est revendiquée par l'organisation terroriste État islamique et était dirigée depuis l'étranger. Jacques Aristide.
Pour le président Obama, il semble que le tireur ait été inspiré par diverses sources d'informations extrémistes sur Internet. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche avec le directeur du FBI, James Comey, et le ministre de la Sécurité intérieure, Jay Johnson. Peu avant d'être abattu par les forces de l'ordre, l'assaillant Omar Sedik Matéen, 29 ans, avait appelé les services d'urgence pour revendiquer son allégeance au groupe État islamique. Les djihadistes ont de leur côté revendiqué sur leur radio ce massacre qui a fait 49 morts. À ce stade, nous ne disposons pas de preuves claires indiquant qu'il était dirigé depuis l'extérieur, a déclaré M. Obama. Évoquant une attaque dévastatrice pour tous les Américains, le chef de l'exécutif américain a souligné que l'enquête était encore un stade préliminaire. Le carnage d'Orlando a déclenché une vive émotion et un concert de condamnation à travers le monde.
Chaque fusillade aux États-Unis relance le débat sur le port d'armes à feu. Dans la foulée du massacre d'Orlando, un sondage réalisé par l'université Quinnipiac montre que 93% d'Américains soutiennent un examen du dossier de tout acheteur potentiel d'une arme à feu. 58% des participants sont en faveur de l'interdiction de vente des fusils d'assaut type AK-47. Ce sondage couvre la période allant de février 2013 à novembre 2015.
République démocratique du Congo, Nord-Kivu, l'armée congolaise a annoncé la mort de 7 rebelles des ADF Nalu et d'un militaire lors d'un accrochage à Kokola dans la région de Beni. Nathalie Barge.
Le lieutenant Mac Azoukai, porte-parole de l'opération Soukola 1, chargé de combattre les ADF, a annoncé également 2 blessés graves dans les rangs de l'armée. Rebelles musulmans installés dans l'est de la RDC depuis 1995, les ADF sont opposés au président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et réélu en février. La MONUSCO et le gouvernement congolais les tiennent pour responsables d'une série de massacres ayant coûté la vie à plus de 600 civils dans la région de Beni depuis octobre 2014. Mais selon un récent rapport du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, d'autres éléments armés sont également responsables, dont des militaires congolais. Le Nord Kivu est déchiré depuis plus de 20 ans par des conflits ethniques, fonciers et pour le contrôle des ressources minières, alimentées par des rivalités entre puissances régionales.
Burundi, la mission d'experts des Nations Unies est de nouveau à Bujumbura jusqu'à vendredi. Elle enquête sur les violations des droits de l'homme depuis le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza. Cette mission, composée de 3 personnes, va rencontrer tous les acteurs impliqués dans la crise. Cette crise qui a déjà fait plus de 500 morts. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Composé du Sud-Africain Christophe Hens, de l'Algérienne Maya Sarlib Fadel et de Pablo de Greiff, la mission des 3 experts des Nations Unies va évaluer pendant près d'une semaine les développements sur la situation des droits de l'homme au Burundi après la première visite effectuée en mars dernier. Le responsable numéro 1 de cette mission, Christophe Hens, en même temps rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, a indiqué qu'il va discuter avec les différents acteurs impliqués dans la crise. Les autorités burundaises seront consultées en plus des responsables des formations politiques, des membres de la société civile ainsi que des victimes de violations des droits de l'homme, sans oublier les agences des Nations Unies au Burundi. Pour Pablo de Griff, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, si une réponse adéquate n'est pas trouvée, les réalisations obtenues grâce à l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha pourraient être volées en éclats. Rappelons qu'une équipe de 6 spécialistes des droits humains est déjà sur place pour épauler les 3 experts qui vont visiter après le Rwanda et l'Ouganda, deux des pays de la région où se trouvent des milliers de réfugiés burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Du remous autour de l'affaire Hissène Habré. Les avocats de l'ancien président tchadien, condamné à la prison à vie, exigent sa libération. Selon eux, la détention de leur client est arbitraire, vu les nombreuses violations des statuts par les chambres africaines extraordinaires. On fait le point Dakar avec Sortna Natambay.
Pour commencer, Maître Ibrahima Diawara attire l'attention sur le non-respect d'un article portant création des chambres africaines extraordinaires.
Un des juges qui s'appelle Amadi Diouf ne remplit pas les conditions légales qui ont été fixées par l'article 11.5 parce que celui-ci n'a jamais, durant sa carrière, exercé des fonctions de juge.
La défense accuse également le ministre de la Justice d'avoir tiré les ficelles tout au long du procès de Hissène Habré.
Nous constatons que donc, aujourd'hui, la détention du président Habré repose sur une décision nulle et non avenue. Et c'est pour cela que nous appelons notamment au président de la République, Macky Sall, et nous voudrions qu'il ne cherche pas à couvrir les irrégularités qui ont été commises par son ministre de la Justice.
Fort de tous ces arguments, Maître Ibrahima Diawara et ses camarades donnent 2 jours à l'État avant de passer à l'étape suivante.
Nous exigeons la libération du président Hassan Habré. Si dans les 48 heures, si l'État ne répond pas à nos interpellations, nous ne manquerons pas de vous dire ce que nous comptons.
Une décision rendue par une juridiction irrégulière emporte la nullité absolue de cette décision. Sortna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo, poursuivi pour crime contre l'humanité, a été suspendu pour une semaine. Ses avocats indiquent qu'ils souhaitent étudier de nouvelles pièces versées au dossier.
Au Mali, une caisse contenant 880 munitions de pistolets a finalement été retrouvée dans l'entrepôt Air France Cargo de l'aéroport de Bamako. Elle avait disparu fin mai lors d'un dépassement de militaires allemands au Mali sur un avion de la compagnie française.
Tension entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Asmara accuse Addis Abeba d'une attaque à sa frontière. De son côté, l'Éthiopie reproche à l'Érythrée d'avoir ouvert les hostilités en tirant des obus, notamment sur les ambulances civiles.
Libye, les forces pro-gouvernementales continuaient leur avancée à Sirte, fief du gouvernement État islamique dans le pays. Mais d'après l'AFP, l'offensive demeure lente et difficile en raison d'une féroce résistance des djihadistes dans la zone résidentielle où ils sont retranchés.
En Irak, le chef de la police de la province d'Al-Anbar a annoncé l'arrestation de 546 terroristes présumés qui s'étaient mêlés aux civils pour s'enfuir de Fallujah. L'armée irakienne a ouvert samedi un couloir d'évacuation sécurisé au sud-ouest de la ville qui a permis à plus de 4000 civils de quitter le centre de Fallujah au cours des dernières 48 heures. Une offensive est en cours depuis le 23 mai pour déloger les djihadistes de Fallujah.
Un groupe influent de dignitaires sunnites pakistanais a émis une fatwa condamnant les crimes perpétrés au nom de l'honneur, qualifiés d'immoraux et injustifiables après une série de meurtres de femmes qui ont choqué le pays. Dans cette fatwa, les responsables musulmans réclament au gouvernement des lois permettant aux forces de sécurité et aux tribunaux de punir dans la semaine tous les coupables de tels crimes. Des centaines de femmes sont tuées chaque année au Pakistan par des proches sous prétexte qu'elles auraient bafoué l'honneur familial.
Crise migratoire en Europe, la Grèce met les bouchées doubles afin d'enregistrer les réfugiés se trouvant sur son sol. Environ 49 000 réfugiés et migrants sont actuellement sur le sol grec, espérant regagner l'Allemagne. L'opération de pré-enregistrement va mobiliser 260 agents pendant 2 mois et elle vise à ouvrir la procédure d'asile à tous les exilés piégés en Grèce continentale après la fermeture début mars de la route des Balkans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Plein feu sur les stades, c'est le journal de l'Euro 2016 présenté par Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir Morgane.
Le champion d'Europe en titre a réussi son entrée dans la compétition.
Dans le groupe D, l'Espagne s'est imposée 1-0 face à la République tchèque à Toulouse sur un but de Piqué. Mais vous allez l'entendre, la rencontre n'a pas été si facile que ça pour les Espagnols. Résumé du match avec le correspondant de VOA Afrique en France, Christian Mpanzu.
Poussive, laborieuse, voire médiocre, l'Espagne est loin d'avoir convaincu face à la République tchèque. Certes, le jeu est toujours aussi léché, les facilités techniques sont largement visibles chez les Espagnols, mais à trop vouloir faire tourner le ballon, les hommes de Vicente del Bosque ont eu bien des difficultés à mettre à mal la défense tchèque. Des Tchèques qui n'ont pas du tout été ridicules d'ailleurs, dominés au niveau de la possession du ballon. Les joueurs de Pavel Verba ont principalement joué en contre et ont mis en danger David De Gea à plusieurs reprises. Le gardien espagnol a même dû être sauvé par son coéquipier Cesc Fabregas dans le dernier quart d'heure pour éviter l'ouverture du score. La délivrance pour les Espagnols intervient à la 87e minute de jeu. Andrés Iniesta adresse un centre parfait à Gérard Piqué qui trompe le gardien de la tête. Victoire de l'Espagne 1-0 donc. Prochain match vendredi pour les Ibériques face à la Turquie. Avec en tête l'envie de livrer une meilleure prestation. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Place au match du groupe E ce lundi.
Oui, la Suède et l'Irlande sont à couteau tiré, un but partout, 0-0 à la mi-temps. Les Irlandais s'étaient créés les meilleures occasions en première mi-temps et tout s'est décanté après la pause. Les Irlandais ont d'abord ouvert le score à la 48e minute par Houlahan et puis la Suède qui égalise. En tout cas, un Irlandais a marqué un but contre son camp grâce à un but de Zlatan Ibrahimovic. Clark est le malheureux Irlandais. Le score est donc de 1 partout entre l'Irlande et la Suède. Dans ce groupe E, l'autre rencontre, le choc ce soir, c'est entre la Belgique et l'Italie à Lyon. Coup d'envoi 19h, temps universel. À noter qu'une minute de silence va être respectée dans toutes les fan zones de France ce soir, en hommage aux victimes de la fusillade d'Orlando.
Et cet euro est marqué aussi malheureusement par les violences.
À Marseille, les hooligans anglais et russes se sont violemment affrontés. Samedi, l'UEFA a même menacé d'exclure les deux équipes. Eh bien, le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, a reconnu ce lundi que les autorités locales ont été complètement débordées par les hooligans venus de Russie. Cette violence dans les stades et en dehors a inspiré notre consultant football. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Les organisateurs de l'euro appréhendaient à juste raison le risque terroriste. Mais c'est un autre bras de l'hydre qui a poussé. Le hooliganisme que l'on croyait maîtrisé s'est invité à la fête du football dès la première journée. Le mot et le mal sont nés en Angleterre. Le continent, lui, l'a découvert à l'occasion de la finale tragique au stade du Essel, qui avait laissé sur le tapis pas moins de 40 supporters de la Juventus de Turin, victimes des hordes vandales venues de Liverpool. Insidieusement, le phénomène est devenu une mode, un art de vivre, à peine condamné. Le hooligan ou extra d'aujourd'hui n'est plus un Britannique, n'est plus issu des couches modestes frustrées, puisque les spectacles coûtent cher. Mais c'est un homme ordinaire qui, le week-end, assimile les rencontres de football à un défouloir et pire, à un combat de guerriers, puisque tous les symboles ou ingrédients du nationalisme exacerbé sont présents. Le drapeau, les écussons, les hymnes, présents des chefs d'État, le chauvinisme, la soif de vaincre à tout prix. Si les Marseillais et les Niçois ont connu l'espace de 3 jours des scènes de guerre, des pugilats collectifs et des hymnes sifflés, c'est qu'il y a un mélange de genres que seule la bêtise autorise. Il est plus que temps de revenir à l'éthique sportive qui, depuis l'Antiquité, a inspiré la notion de trêve olympique. À bientôt.
En bref, Nicolas, les autres résultats sur la planète sport.
En football, la Copa América, rien ne va plus pour les Brésiliens, battus la nuit dernière 1-0 par le Pérou. L'Équateur a giflé Haïti 4-0. Enfin, le basket, 5e manche ce soir de la finale NBA entre Golden State et Cleveland.
Merci, c'était le journal de l'Euro avec Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Bagassi Koura.
Un Ivoirien à la tête du Conseil international des céréales, Ali Touré, a été élu à ce poste à Londres par les représentants des 27 pays membres de la dite organisation. Fondée il y a près de 70 ans, ce conseil veille entre autres sur l'évolution et l'orientation des marchés céréaliers mondiaux. Le franc CFA a encore de l'avenir, c'est l'assurance que donne ce lundi le ministre gabonais de l'économie Régis Imongol. Depuis Paris, il estime que le CFA a constitué un élément de stabilité économique dans les 15 pays d'Afrique subsaharienne. Le CFA non donné à deux monnaies distinctes utilisées par 155 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale est lié à l'euro par un système de parité fixe, mais les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Accord de partenariat économique entre l'Union européenne et six pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud. L'accord signé vendredi vise à renforcer le traité commercial de 60 milliards d'euros par an déjà existant entre l'UE et les pays de la SADC. Ces derniers exportent chaque année quelque 30 milliards d'euros de produits vers les 28 pays de l'Union européenne, essentiellement des métaux et des minéraux. Et puis enfin, les avocats du fonds souverain libyen accusent la banque américaine Goldman Sachs d'avoir abusé ses responsables inexpérimentés pour conclure des accords qui ont coûté au fonds 1,7 milliard d'euros.
Morgane Guerriec et chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour.
Retour sur la fusillade d'Orlando. En pleine campagne présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump ont réagi de façon opposée. La candidate démocrate a condamné un acte de terreur et de haine, tandis que Donald Trump s'est félicité d'avoir eu raison sur le terrorisme islamiste radical. Cette tuerie va-t-elle influencer la campagne présidentielle ? Claire Morin-Gibourg a joint Charles Voisin, conférencier à l'Université de Liège et spécialiste de la politique américaine.
Hillary Clinton, elle a été patiente, elle a attendu de voir de quoi il s'agissait réellement. Et c'est vrai que c'est la fusillade de masse la plus meurtrière aux États-Unis. Donc c'est un peu sous cet angle-là, assez prudent, assez respectueux, que l'a abordé Hillary Clinton en disant que c'était un acte de terreur, un acte de haine qui a ciblé la communauté gay. Et enfin, c'est une énième fusillade de masse. Et alors, elle a appelé à retirer de la vente libre des armes qui sont finalement des armes de guerre, c'est-à-dire les fusils d'assaut qui n'ont aucune place dans les rues américaines.
Comment a réagi Donald Trump et pensez-vous qu'il va recentrer sa campagne autour de l'islam et peut-être de la lutte contre le terrorisme ?
Donald Trump a réagi de manière nettement moins élégante qu'Hillary Clinton. Il s'est quelque part félicité d'avoir vu juste. Il l'a aussi rappelé. Il avait demandé une interdiction temporaire de séjour pour les personnes de confession musulmane aux États-Unis. Il n'a pas réitéré cette promesse, mais il en a quand même reparlé. C'est-à-dire que réitérer cette promesse, ça serait peut-être un peu trop radical maintenant qu'on se dirige vers l'élection, tout doucement, dans 5 mois. Mais quand même, il s'est félicité d'avoir parlé de cette mesure. On verra s'il franchit le pas et qu'il répète vraiment ceci comme une promesse de manière explicite.
Et pensez-vous que cette tuerie va avoir un impact sur la campagne ?
On est encore tôt, hein. Les conventions vont se dérouler cet été, en juillet. Oui, on va voir dans les sondages d'opinion, dans les prochains jours, qui ça avantage. C'est sûr que Donald Trump est vu comme quelqu'un le mieux à même de remettre l'économie sur pied, tandis qu'Hillary Clinton est vu comme nettement plus expérimentée sur la question de la politique étrangère. Donc on verra ça finalement dans les prochains jours, dans les enquêtes d'opinion.
Voilà, c'était Charles Voisin, conférencier à l'Université de Liège et spécialiste de la politique américaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap sur le Tchad, la grève déclenchée ce lundi par le syndicat des magistrats a été observée dans toutes les juridictions du pays. Conséquence, les audiences programmées ce 13 juin 2016 sont renvoyées à la semaine prochaine. De N'Djamena, le reportage d'André Kodmajingar.
Les magistrats sont unanimes dans leurs revendications. Celle de retrouver l'agresseur de leur confrère juge de paix de Bagassola dans la région du lac et le mettre à la disposition de la justice. Cette grogne prolonge le séjour des détenus préventifs des maisons d'arrêt qui attendent être situés sur leur sort au cours de cette semaine. Même les avocats qui ont des dossiers à plaider sont en chômage. Coup de gueule de quelques justiciables rencontrés dans la cour du palais de justice de N'Djamena.
Nous sommes là au palais, mais il n'y a pas d'activité. Cette grève, ça nous pose énormément de problèmes.
Vu des raisons évoquée par les magistrats, elle est légitime, même si ça a causé un dysfonctionnement sur le fonctionnement de la justice. On espère que d'ici jeudi, la situation va se décanter.
Vous ne verrez même pas les magistrats dans leur bureau. C'est vraiment regrettable pour un pays qui se dit un pays de droit, de surcroît un pays démocratique. Une institution comme la justice et que les magistrats décident d'aller en grève. Et cette grève, elle est logique, étant donné que c'est l'un des leurs qui a failli être tué par un militaire. Et si aujourd'hui, on refuse de remettre celui-là entre les mains de la justice pour que justice soit rendue à ses magistrats, ils ont raison de taper sur la table.
Ce débrayage paralyse presque toutes les juridictions du pays. À Moundou, capitale économique du Tchad, les activités du parquet d'instance sont au ralenti. Idem à Laï, chef-lieu de la région de la Tangélé. Jointe au téléphone par VOA Afrique, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laï, Moumassou Divoulsou, confirme que les magistrats ont fermé hermétiquement leur bureau.
Nous appartenons à ce corps, on ne peut que débrayer en fermant donc les bureaux. Cependant, nous ne tenons pas régulièrement au sein donc de grandes instances de l'AI, des audiences, et pour cause des difficultés de tous ordres que nous connaissons. Et une telle grève va avoir des conséquences sur la situation des détenus préventifs. On ne peut pas faire autrement.
Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Ali Abdoulaye Ibrahim, déplore qu'aucun responsable du ministère de tutelle ne s'est rapproché d'eux pour une éventuelle négociation pouvant aboutir à une sortie des crises. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, plus de 200 forêts classées ont été remplacées par des plantations de cacao. Pour combattre la déforestation, la Société de développement des forêts de Côte d'Ivoire, la SODEFOR, expulse brutalement des agriculteurs qui vivent dans ces forêts. Human Rights Watch dénonce une violation des droits de l'homme et propose une reforestation au lieu de chasser sans préavis les occupants de ces forêts. Mally Segal a joint Jim Warmington, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
Les forêts classées, ça veut dire les forêts qui ont été désignées pour la préservation des forêts. Actuellement, il y a une grande occupation de ces forêts par les planteurs et les agriculteurs. Entre 30 et 40% du cacao de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a une production assez énorme au sein de ces terres qui devrait normalement être pour la préservation. Il y a un défi pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire parce que avec une production aussi large que ça du cacao qui provient de ces forêts, c'est qu'il y a aussi une bienfait plus globale pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc si le gouvernement va tenter de soudainement expulser les agriculteurs de ces forêts, ça veut dire que ça va avoir aussi un impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc ce qu'on pense peut être mieux, c'est de tenter de trouver une solution peut-être plus progressive qui continue de donner le droit aux planteurs de vivre et de gagner de l'argent de leur cacao, mais en même temps d'avoir une reboisement progressif qui arrive après plusieurs années avec une reforestation du pays.
Les autorités sont impliquées, c'est ça?
Il y a une agence de l'État qui s'appelle SODEFOR, ça veut dire la Société des développements des forêts, qui est chargée de gérer ces forêts classées. Et l'approche de SODEFOR actuellement, suivant ce qu'on a constaté à l'Ouest, c'est une approche de la répression. Donc ça veut dire que c'est les agents qui arrivent dans les campements, dans les villages, sans aucun préavis, pour brûler les maisons, pour forcer les familles à marcher des dizaines de kilomètres juste pour trouver un logement pour la nuit. Souvent, les planteurs nous ont dit qu'ils se sentaient obligés de donner les pots de vin aux officiers de SODEFOR, juste pour qu'ils puissent éviter ce type d'expulsion forcée. Et dans d'autres cas, on avait les jeunes planteurs qui ont dit qu'ils ont été battus par les agents de SODEFOR pendant les dégapissements. Finalement, qu'il faut qu'il y ait une solution à long terme pour que le gouvernement puisse équilibrer l'impact sur l'environnement avec la vie, les droits de ces planteurs qui vivent dans ces forêts classées. On peut estimer qu'il y a 2 millions d'hectares de la Côte d'Ivoire, des forêts classées, qui sont occupées par les planteurs.
Jim Warmington, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
Le 13 juin est une journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Au Burundi, les albinos luttent quotidiennement contre le rejet et les assassinats. 21 d'entre eux ont été assassinés depuis 2008 dans des trafics pour leurs organes. Le pays compte plus d'un millier d'albinos qui peinent à s'intégrer dans la vie quotidienne. Eric Manirakiza a joint à Bujumbura le président de l'Organisation des personnes albinos du Burundi, Moïse Ngurutse.
Les personnes albinos au Burundi connaissent beaucoup de difficultés. Les difficultés liées à l'éducation, les difficultés liées à la santé, à l'intégration économique et autres choses.
Mais ça, ce sont aussi des défis qui s'imposent à tous les Burundais.
Non, pour les personnes atteintes d'albinisme, il y a une particularité parce que les personnes albinos sont souvent discriminées dans tous les domaines. Parce que la population n'est pas sensibilisée à ce phénomène d'albinisme.
Existe-t-il encore des menaces d'assassinat qui visent des albinos au Burundi pour trafic de leurs organes?
Les menaces persistent toujours parce que, par exemple, au mois de février, il y a un enfant atteint d'albinisme qui a été assassiné au nord du Burundi, dans la province de Kirundo, précisément dans la commune de Busuni. Donc, les menaces sont toujours là. Il faut être toujours attentif parce que les traques faites contre les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas encore terminé.
Quelques mois, il y avait une peur panique au sein de la minorité albine. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne albine peut jouir de ses droits et vaquer à ses activités sans crainte d'être assassinée?
Comme vous le savez, le pays est divisé dans quatre régions. Par exemple, à l'est, c'est difficile. De toute façon, atteinte d'albinisme ne va pas très bien à les activités quotidiennes. Parce qu'il y a des personnes atteintes d'albinisme qui sont encore réfugiées, qui sont encore regroupées au chef-lieu des communes, comme dans la commune de Kiminia, d'Arundi, commune Musonga, la province de Rutana, commune Nebugereru et Nyabitinda, toujours dans la province de Runigi. Ailleurs, on peut vaquer à ces activités, mais il faut toujours être attentif parce que toute la population n'a pas encore compris que la personne atteinte d'albinisme est une personne comme les autres.
Aujourd'hui, vous avez célébré la journée mondiale dédiée à la personne albine. En quoi cette journée vous aide à prévaloir vos droits et atteindre vos objectifs?
Nous venons de fermer une table ronde où il y avait des agences des Nations Unies. Les agences qui ont été faites vont aboutir à quelque chose dans les jours à venir parce qu'il faut envisager une activité de grande envergure pour atteindre une intégration socio-économique effective pour les personnes atteintes d'albinisme.
Moïse Ngurutse, joint à Bujumbura.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, Chang à la console, présentation Morgan Diayek et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.